France Culture.
La science CQFD, Antoine Beauchamp.
Comme tous les mois dans la science CQFD, on consacre un lundi à notre tour d'horizon des actualités scientifiques. Que trouve-t-on à la une des magazines scientifiques en kiosque ce mois-ci ? Nos systèmes de santé sont-ils menacés par le surdiagnostic ? C'est le signal d'alarme que tirent des professionnels appelant à considérer ce phénomène comme une nouvelle épidémie. Du côté des écosystèmes, on parle des mycorhizes, ces réseaux qui unissent les champignons aux plantes. Un travail récent souligne la nécessité d'inclure ces mycorhizes dans les programmes de protection de la nature. Nature toujours, on réalise une enquête forestière pour comprendre ce qu'est l'astromycine, cette gelée stellaire parfois visible dans les forêts tempérées, mais dont l'origine a suscité bien des interprétations. Enfin, on parle des TDAH, ces troubles déficit de l'attention dont la prévalence augmente chez les adultes, nous invitant à repenser les parcours thérapeutiques. Bonjour Mathilde Fontaise.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef d'Epsilon, le magazine partenaire de la science CQFD. Bonjour Blaise Mao.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef d'Ouzbek Erika. Bonjour Sébastien Boller.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de magazine Cerveau et Psycho. Et nous sommes enfin en duplex depuis ici, RCFM, à Bastia, avec Cécile Breton. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes rédactrice en chef de la revue Espèces. Merci beaucoup à tous les quatre de vous joindre à nous et merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez comme chaque jour retrouver tous les liens vers les articles dont il sera question aujourd'hui dans l'émission sur le site de la Science CQFD, mais aussi sur notre compte BlueSky@ScienceCQFD. On saute sans plus attendre dans le grand bain des actualités scientifiques avec vous Mathilde Fontaise et cette une du magazine Epsilon qui titre sobrement « Sur diagnostic médical, l'alerte ». En septembre dernier se tenait à Oxford la 14e conférence internationale sur, je cite, la prévention du surdiagnostic. Alors je trouve que c'est un intitulé à la fois surprenant et en même temps très parlant. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Mathilde, d'une nouvelle épidémie, d'une nouvelle espèce d'épidémie, le surdiagnostic ?
En tout cas, il y a une alerte qui monte dans la communauté. Alors, il y a aussi le chiffre de 14e conférence internationale dans ce que vous avez dit. Et ça montre bien que c'est un phénomène qui est connu depuis déjà au moins 14 ans, depuis plusieurs années, qui mobilise des chercheurs, mais qui commence à provoquer une certaine nervosité, une certaine crainte, et qui mobilise une communauté de spécialistes en épidémiologie, mais aussi de praticiens, de médecins, etc., qui commence à essayer de mettre en garde contre cette épidémie. Alors, ça veut dire quoi une épidémie de surdiagnostic ? La première chose à peut-être à dire, c'est qu'il ne s'agit pas de faux positifs. C'est-à-dire que dans le cadre d'un surdiagnostic, il y a bien une détection d'une maladie. Donc, elle est soignée en général. Simplement, quand elle est surdiagnostiquée, c'est parce que si elle n'avait pas été soignée, elle n'aurait peut-être pas, sans doute pas causé de symptômes et de toute façon pas causé la mort du patient. Donc c'est cette idée qu'on détecte parfois des choses qui ressemblent à une maladie mais sans symptômes généraux qui sont soignées et qui n'auraient peut-être pas dû l'être.
Alors moi je suis un peu hypochondriaque et je me dis mais le surdiagnostic a priori c'est pas forcément une mauvaise chose. Pourtant vous le dites, voilà, il y a des scientifiques qui disent il faut tirer un peu le signal d'alarme et faire attention à ces cas de surdiagnostic qui se développent. Alors déjà de quelle maladie on parle aujourd'hui? Quelles maladies sont principalement concernées par ces
choses? La maladie qui a un peu sonné l'alerte, c'est un cancer. C'est le cancer de la prostate. Et ça, c'est une histoire qui date des années 90. Avec, dans les années 90, l'arrivée d'une techno de détection très fine de marqueurs antigéniques qui marquaient un début de cancer de la prostate et qui ont augmenté comme ça le dépistage du cancer. Donc on a eu, à ce moment-là, au moment du développement de ce dosage qui s'appelle dosage du PSA, donc c'est un antigène prostatique spécifique, on a eu des milliers de détections et des milliers d'ablations de la prostate. Sauf que derrière, il y a eu d'autres études de suivi plus longues qui ont montré que finalement, toutes ces opérations n'avaient pas forcément été au bénéfice du patient. D'autres études ont montré que ces cancers, entre guillemets, prédétectés, n'en étaient pas forcément, ou alors étaient des formes qui n'allaient pas évoluer et qui n'allaient pas devenir à la fin une maladie. Et la remise en question de ces protocoles-là, de prédétection d'une part, et ensuite de chirurgie, c'est tout évidemment tous les effets secondaires de ces traitements qui sont mis en place pour soigner un cancer et qui sont évidents. À partir du moment où on détecte, c'est l'une des choses que nous ont dit tous les chercheurs pour commencer, et tous les praticiens et tous les médecins qu'on a interrogés, c'est qu'à partir du moment où on détecte quelque chose, il est très difficile de ne pas le soigner. C'est très difficile de voir quelque chose à l'imagerie et puis de dire non, on va voir, on va le laisser. Donc généralement, ça déclenche un traitement soit par médicament, soit par de la chirurgie. Donc forcément des conséquences, des effets secondaires, ce qu'on appelle les effets secondaires. Et la dynamique, normalement, c'est d'étudier un bénéfice-risque. Et si le bénéfice est prouvé en faveur du risque, dans ce cas-là, de mettre en place le traitement. Sauf qu'on a eu l'arrivée ces dernières années, donc le cancer de la prostate en est un exemple. Mais en fait, toutes les maladies sont concernées, puisque la cause de tout ça, c'est finalement le perfectionnement des techniques d'imagerie. Donc l'IRM particulier, qui non seulement est devenue plus précise, mais qui en plus est devenue moins coûteuse, plus rapide, donc on peut en faire beaucoup plus facilement. Les scanners, etc. Et toutes ces techniques d'imagerie permettent de dépister beaucoup plus tôt qu'auparavant, ou des signes beaucoup plus faibles, considérés beaucoup plus faibles de certaines maladies, sans qu'on ait pour autant réussi à vraiment évaluer que ces maladies allaient devenir pathologiques. C'est bizarre de dire une maladie pathologique, oui. Mais c'est un peu ça.
Alors on parle du cancer de la prostate comme d'un cas d'école. Il y a d'autres cancers aujourd'hui qui sont en partie surdiagnostiqués. Là on est en plein octobre rose, donc on peut parler du cancer du sein.
C'est l'exemple qui nous a interpellés, nous, pour ne rien vous cacher à Epsilon. Donc ce cancer de la prostate était ancien, on avait vu des publications. Ce sont des études très difficiles à mener, ces études qui tentent à montrer ou à prouver ou à démontrer un surdiagnostic, puisque c'est pas évident du tout de montrer qu'une maladie, si elle n'avait pas été soignée, n'aurait pas évolué. On est bien loin de pouvoir prédire l'évolution précise d'une tumeur sur des dizaines d'années, et ça dépend énormément de l'individu, etc. Donc ce sont, disons, tout un tas d'études qui ont été menées, qui ont attiré notre attention d'une part des études épidémiologiques, mais aussi des autopsies, des études basées sur des autopsies qui ont visé à essayer de comparer un petit peu le taux de développement des cancers chez des personnes qui avaient été prédépistées, chez des personnes qui ne l'avaient pas été, etc. Et ce qui nous a interpellé aussi, donc c'est effectivement ces débats sur le cancer du sein, avec en mai 2023 une recommandation aux États-Unis qui a émergé d'un dépistage à 40 ans. Et là, on a vu derrière se développer un débat dans le pays voisin, au Canada, le Premier ministre a tout simplement demandé à un groupe d'experts d'évaluer s'il était nécessaire ou pas de passer pour le Canada aussi à un prédépistage à 40 ans. Ce groupe d'experts, on a interrogé les membres de ce groupe d'experts, a rendu un verdict qui était extrêmement prudent, en disant qu'il ne fallait pas dépister avant 50 ans, mais présenter les bénéfices et les préjudices au patient. Donc entamer une discussion potentiellement avec un patient pour lui proposer un dépistage, éventuellement en fonction de certains, disons, terrains de risque. Sauf que le Premier ministre canadien a quand même déclenché la recommandation du dépistage à 40 ans. Donc on voit bien aussi que là, il y a des enjeux d'une lutte quelque part qui nous concerne tous et qui est donc de fait une cause évidemment assez efficace pour un politique à défendre, de dire puisque nous avons des techniques de détection des maladies, nous allons nous lancer dans la lutte contre ces maladies en déployant ces techniques. Et nous, en tant que gouvernement, nous allons lancer cette campagne de dépistage. Et ce que disent les chercheurs là, et ce que disaient les chercheurs de ce groupe d'experts, c'est que vraiment, là, le Premier ministre a pris le contre-pied total du verdict qu'ils avaient rendu. Alors en France, la Haute Autorité de Santé ne recommande pas ce dépistage à 40 ans, ne le recommande qu'après 50 ans. Mais malgré ça, il y a plusieurs études qui montrent qu'il y a des surdiagnostics de l'ordre de 30% dans les cancers du sein chez des femmes. Donc par exemple, 35% chez les femmes de 50 à 70 ans en Grande-Bretagne. Aux États-Unis, 31% chez les femmes de 70 à 74 ans et 54% chez les femmes de 80 ans et plus. Donc il y a des études comme ça qui se multiplient et qui montrent que dans nos politiques de détection, même si on ne détecte, si on ne dépiste qu'au-delà de 50 ans, on va avoir une portion des femmes qui vont avoir été soignées alors qu'elles n'étaient pas malades, en quelque sorte.
Sébastien Boller.
C'est très intéressant. J'ai une question à vous poser. C'est sur l'exemple de ce qui s'est passé au Canada, où on voit très bien qu'il y a une communauté de chercheurs qui, eux, seraient plutôt enclins à dire c'est peut-être pas la peine d'enclencher la machine. Et puis, il y a le politique qui dit on va le faire quand même. Et ce que je me demande, c'est est-ce qu'il n'y a pas là, justement, un rôle particulier du politique par rapport au principe de précaution, c'est-à-dire ceux qui prennent les responsabilités d'engager ou non ces campagnes de diagnostic, c'est le risque plus tard d'être incriminé, d'avoir des patients qui disent « bah regardez, moi j'ai pas pu bénéficier du diagnostic ». Est-ce qu'à votre avis, là-dedans, il ne pourrait pas y avoir une explication du phénomène ?
Oui, mais c'est ce que disent ce que répondent les chercheurs, c'est que la question se pose de savoir où se situe le principe de précaution. On peut prendre le problème dans les deux sens. On peut dire que le principe de précaution doit s'appliquer en traitant les gens, puisqu'il y a des thérapies disponibles et puisqu'ils ont été détectés. Mais on peut se dire aussi que le principe de précaution s'applique pour protéger les gens des effets secondaires de thérapies qui sont, on le sait, très lourde. Je peux relister toutes les conséquences d'une thérapie d'un cancer du sein, mais donc c'est ralentissement physique, psychologique, on a augmentation du risque de leucémie, des maladies cardiaques, des maladies cérébrovasculaires, des syndromes anxio-dépressifs, et sans parler après des risques psychosociaux, puisqu'il y a des études qui montrent que très peu de femmes reprennent leur travail à plein temps après avoir, on va dire, été rescapées quelque part d'un cancer du sein. Donc on a tous ces effets secondaires, on va dire, tout cet énorme paquet d'effets secondaires, et on sait bien que la question du cancer n'est pas une question qu'on peut traiter légèrement dans une vie. Et donc, le principe de précaution peut être appliqué à l'inverse. Et finalement, ces chercheurs, cette communauté, ce qu'ils demandent, c'est que le débat soit mis sur la table. Et on a aussi, dans un second temps dans notre enquête, beaucoup parlé avec les médecins généralistes. De plus en plus, en fait, au début, on n'a pas non plus un temps infini pour faire une enquête de cette sorte, mais on n'arrivait plus à s'arrêter quelque part à parler avec ces praticiens qui disaient tous que leur besoin, en fait, de mettre ce sujet, disons, dans la discussion du médecin généraliste avec son patient. Normalement, tous nous l'ont rappelé, tous les chercheurs nous l'ont rappelé, un dépistage, ça doit se faire après une discussion avec un médecin. Ça n'est pas quelque chose qu'on fait automatiquement parce qu'on reçoit une lettre de l'État qui nous dit « allez vous faire dépister ». Ça doit faire l'objet d'une discussion qui doit amener le patient à se rendre compte du processus dans lequel il va rentrer s'il se fait dépister, des risques, des bénéfices, et puis qu'il puisse prendre sa décision, disons, de manière éclairée. Il ne s'agit pas de dire que le dépistage ne sert à rien, il s'agit de faire attention et aussi de faire attention parce qu'on a vu émerger ces dernières années, c'est le versant, on va dire, un peu plus paillette de l'affaire et qui n'est pas anodin non plus. On a vu émerger cette année tout un tas de petites technos un peu bizarres, un peu amusantes sur Internet, pour certaines qui vont avoir été, disons, vantées par quelques stars des réseaux sociaux.
Kim Kardashian,
pour ne pas la citer, voilà. Par exemple.
360 millions d'abonnés, quand même.
Voilà. Donc, elle prenait l'utilisation de l'IRM à corps entier pour pouvoir avoir, comme ça, un panoramique de son corps. Et elle disait que c'était une... elle vantait ça auprès des gens qui la suivent en disant que c'était une responsabilité de leur part et qu'ils devaient vraiment faire ces analyses. Mais il y a aussi tout un tas de petites analyses, des petits tests, des autotests qui sont disponibles assez facilement et qui permettent, soi-disant, de détecter les maladies thyroïdiennes, de détecter tout un tas de...
Mathilde, je vous interromps. Dans ce dossier d'Epsilon, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé là des cancers, cancer de la prostate, cancer du sein, mais il y a tout un éventail de pathologies qui sont concernées par ce surdiagnostic et qui vont de l'oncologie aux troubles psychiques.
Oui, il y a les maladies, disons toutes les maladies métaboliques sont concernées donc par ce problème du surdiagnostic et qui n'est pas tout à fait, disons qui ne se joue pas tout à fait de la même manière en fonction des maladies. Par exemple, pour le cancer du sein, on voit bien qu'il y a une difficulté à prédire l'évolution des tumeurs en fonction des types de cancers et que les chercheurs sont en train de faire ce travail en ce moment, d'essayer de faire un tri entre, on va dire, des tumeurs qui vont de toute façon évoluer de manière extrêmement maligne et qu'il faut traiter au plus vite, et d'autres qui... avec lesquels on va pouvoir vivre. Il y a une info quand même qui m'a, moi, sidérée. L'un des cancers qui s'appelle le cancer in situ, qui était au début détecté à 3% à peu près des cancers détectés, aujourd'hui est détecté à 20-30%. Donc c'est un cancer, qui est vu parce qu'on regarde mieux aujourd'hui. Et ce cancer, les études, pour l'instant, les prémices d'études, disons, montrent qu'il ne devient en aucun cas malin. Il ne fait pas mourir, il ne provoque pas de symptômes. On voit bien qu'il y a toute une recherche qui, là, est encore à l'œuvre et qui essaye de quantifier ça. Et après, de l'autre côté, il y a une dynamique pour les maladies métaboliques qui est plutôt de l'ordre de où fixe-t-on les seuils pour se considérer malade. Par exemple, l'exemple principal pour ce pan, disons, de recherche, c'est la question du diabète gestationnel, qui est un peu l'équivalent du cancer de la prostate, mais pour les maladies métaboliques. Et là, on a une dynamique un peu la même, c'est-à-dire qu'en 2014, le seuil a été abaissé en Australie, et puis tout à coup, ça a provoqué donc le traitement de ces femmes chez qui on avait détecté éviter un diabète gestationnel, mais parce que les seuils, tout, en fait, tous les critères quelque part avec lesquels on les définissait malades avaient été abaissés. Et tout à coup, donc, il y a eu des bébés de petite taille, il y a eu plus de déclenchements d'accouchement, plus de médicaments évidemment, et plus de recours aux services de santé. Ça a provoqué comme ça une sorte d'effet boule de neige négatif, ce qui fait que les autorités ont relevé le seuil derrière. Et ça, ce cas-là, il y a un peu le même avec l'hypercholestérolémie, avec l'asthme. Il y a des maladies comme ça où on a tendance, par mesure de précaution, à abaisser les seuils de tolérance et finalement, enfin les seuils de définition de la maladie, et en se disant c'est pas grave, on va traiter les gens, ça ne va pas faire de mal. Oui, sauf que associé à une thérapie, il y a toujours un risque et il y a toujours des inconvénients.
Là, vous associez donc vous ouvrez la porte des conséquences. Donc on comprend bien les causes de ce surdiagnostic, donc des effets de seuil qui sont modifiés, qui peuvent occasionner des surdiagnostics, la modification aussi de la compréhension des pathologies, l'apparition de nouvelles technologies qui permettent justement d'être plus précis dans nos observations. Venons-en donc, Mathilde, pour conclure ce tour d'horizon de ce dossier d'Epsilon aux conséquences de cette épidémie de surdiagnostic sur la santé des humains, mais aussi sur les systèmes de santé. Quelles sont-elles, ces conséquences ?
Ces conséquences, elles sont évidemment majeures, puisque il y a un exemple particulier qui est assez intéressant, c'est par exemple l'hypertension. Donc l'hypertension, on a un abaissement des seuils qui fait qu'on va traiter, on va dire, l'hypertension légère un peu de la même manière qu'on traite l'hypertension aiguë. Et donc on va mobiliser les mêmes services de santé pour des personnes qui pourraient ne pas être traitées ou quasi et des personnes qui vont avoir besoin d'être traitées. Et on parle en même temps de désert médical et on parle en même temps d'engorgement des hôpitaux. Et on voit bien comment les choses communiquent et évidemment, on voit bien comment des soins apportés à des personnes qui auraient pu s'en passés peuvent nuire à ceux qui auraient dû en bénéficier. Idem pour l'occupation des appareils. On n'a aussi pas parlé d'un autre point qui est celui des risques qui sont liés à les radiations lorsqu'on passe un scanner, une IRM, etc. C'est loin d'être anodin et les études montrent que ça provoque aussi des cancers plus tard et qu'il faut donc faire attention avec ces imageries. Et pour finir, j'avais juste envie de parler d'IA puisqu'on a beaucoup aussi en ce moment, on entend beaucoup parler de la capacité qu'aurait l'IA à pouvoir justement nous aider à détecter des maladies très, disons, beaucoup mieux que nous ne le ferions et de lire sur des radios des choses beaucoup plus fines, etc. Le danger va devenir beaucoup plus fort du surdiagnostic avec ce type de technologie. Mais heureusement, lueur dans le bout du tunnel, on a trouvé aussi des chercheurs qui réfléchissent à l'inverse, à faire travailler des réseaux de neurones pour essayer de leur permettre justement, dans cette nuée de données, d'essayer de mieux finement discerner ce qui pourrait être de l'ordre du surdiagnostic et de ce qui pourrait être finalement une vraie maladie.
Tout ça est aussi à retrouver donc dans le dossier d'Epsilon consacré au surdiagnostic, un dossier vraiment intéressant dans lequel il y a aussi une intervention d'une anthropologue qui m'a fait beaucoup réfléchir, qui pose la question en fait d'une sorte de méta-valeur morale que serait devenue la santé dans nos sociétés où il faut travailler pour sa santé, bien se nourrir, bien faire du sport.
Oui, elle va très loin. Elle parle même de nouvelles religions avec leurs nouveaux prêtres. Et donc, c'est cette idée centrale que la santé va être, on va dire, la valeur commune qu'on va tous partager, nous les humains.
Qui est peut-être liée aussi à une certaine inquiétude liée à la santé de la planète plus globalement. Et pour conclure, voilà, l'évocation de cette épidémie de surdiagnostic, je reprends une citation de l'auteur anglais Aldous Huxley du milieu du XXe siècle. Qui dans je sais plus quel livre, mais en tout cas c'est cité dans le dossier, qui disait « La science médicale a fait des progrès tellement considérables qu'il ne reste pratiquement aucun être humain en bonne santé ». Voilà, je vous laisse sur cette considération et ce bon mot d'Aldous Huxley. Et puis maintenant, on va enfiler un caouet, des bottes, et on va partir en forêt, puisque c'est l'automne, et a priori, il pleut en automne en forêt.
France Culture, la science CQFD, Antoine Beauchamp.
On continue notre tour d'horizon de l'actualité scientifique et on va se pencher à présent sur un article intitulé « Les champignons souterrains sont les héros méconnus du monde naturel » paru dans Uzbek Erika, revue dont vous êtes le rédacteur en chef, Blaise Mao. Cet article est en réalité une interview d'un certain Jinsu Elans, je ne sais pas si je le prononce bien, un scientifique spécialiste des données numériques qui a mis ses talents au service d'un projet visant à mettre en valeur les mycorhizes. Alors Blaise, c'est quoi les mycorhizes et comment ça s'intègre dans les grandes familles de champignons?
Alors, rien à voir avec les cèpes et les bolets et les champignons et les trompettes de la mort qu'on va accueillir en automne. Rien à voir non plus avec les champignons hallucinogènes, la psilocybine et tous ces champignons qui ouvrent les portes de la perception. C'est une autre famille de champignons, donc ce qu'on appelle les mycorhizogènes ou champignons mycorhiziens. Famille méconnue et invisible, invisible tout simplement parce qu'ils ont la particularité de s'associer aux racines des plantes, hein, d'entrer en symbiose avec ces plantes pour former d'immenses réseaux, on parle de réseaux mycorhiziens, donc souterrains, donc de fait invisibles. Les mycorhizes, en fait, entrent en relation symbiotique avec les plantes. Alors, c'est énormément de types de plantes, hein. On a à peu près 250 000 plantes concernées, enfin, espèces végétales même, pour être très précis, ça va du conifère aux orchidées, rhododendrons. Les hêtres aussi peuvent nouer des relations très complexes avec ces mycorhizes. Avec une relation, je le disais, symbiotique qui va dans les deux sens. D'un côté, les plantes transmettent en fait les sucres qui permettent à ces mycorhizes de déployer leurs immenses filaments en profondeur, hein, les fameuses structures hyphales, on parle des hyphes.
Les hyphes. H-Y-P-H-E, ça c'est pratique pour le Scrabble.
Exactement. Voilà.
Ça compte triple. Pour gagner des points.
Ça compte triple et déploie donc ce réseau d'hyphes ultra dense, ultra massif, sous terre. Et donc, ces hyphes, les mycorhizes, en fait, dans l'autre sens, ont la capacité de retenir l'humidité, de faciliter l'accès des plantes aux nutriments, notamment les nutriments qui sont contenus dans les structures les plus profondes, les plus complexes du sol. Tout ça, on le savait, mais l'été dernier, en juillet dernier, il y a eu une publication d'un énorme travail mené pendant 4 ans par des chercheurs associé à un organisme qui porte le joli nom de Société pour la protection des réseaux souterrains, la SPUN en anglais, hein, c'est l'acronyme anglais.
Rien à voir avec la préservation des réseaux de métro. Là, c'est vraiment, on se concentre sur les mycorhizes.
Bien sûr, là, on est sous terre, mais vraiment dans la nature. Et ce travail a mobilisé plus de 400 scientifiques qui ont été dans 130 pays différents pour prélever des échantillons en fait de ces mycorhizes dans des pays où on n'avait pas encore repéré ces réseaux, Mongolie, Pakistan, Ukraine, Ghana. Et donc, ils ont publié un atlas associé à une étude qui était publiée dans Nature en juillet dernier. Un énorme travail de cartographie. Alors, comment ça marche? Ils ont utilisé donc plus de 2,8 milliards de séquences d'ADN fongique qui provenaient des différents échantillons du sol. Ils ont analysé les relations entre toute cette biodiversité fongique et toute une série de variables environnementales, des variables importantes comme le climat, les propriétés du sol, la topographie. Ça leur a permis après de travailler sur la mise au point d'algorithmes d'apprentissage automatique pour générer ces cartes de haute résolution qui donc permettent de prédire la biodiversité fongique mycorhizienne à une résolution de 1 km carré à l'échelle de la planète. Donc c'est la première fois qu'on a cette base-là. Et effectivement, nous, on a discuté avec Jinsu Elhans, qui est donc un data scientist de cet organisme, de cette société pour la protection des réseaux souterrains. Et on a parlé avec lui des résultats et des promesses de ce travail cartographique. Donc déjà, ça confirme ce qu'on savait déjà, c'est que les mycorhizes jouent un rôle très, très important, très précieux dans la séquestration du carbone.
Parce que oui, là, on parlait des services écologiques rendus par la mycorhize à l'échelle des plantes, à l'échelle des sols. Donc, bien sûr, ça maintient une forme d'humidité. Les plantes y trouvent des nutriments. Ces nutriments même se retrouvent après dans les rivières. Donc, ça, les mycorhizes jouent un rôle aussi pour le plancton et les poissons d'eau douce. Ouais. Voilà, il y a tous ces réseaux de transmission. Mais effectivement, comme vous le dites, Blaise Mao, il y a cette dimension de stockage de carbone qui est très, très importante en matière de mycorhize.
Très importante. Alors, il cite le chiffre qui est colossal, hein, de 13 milliards de tonnes de CO2 qui serait comme ça capté via les plantes en sous-sol. C'est énorme, ça fait un tiers des émissions mondiales de combustibles fossiles. Et ce qui est très intriguant, c'est que pour l'instant, on n'a pas d'analyse précise, ça va être un peu une des prochaines étapes de leur travail, de comment et où exactement est stocké ce carbone en sous-sol.
Parce que ce que met aussi en avant cette interview et ce papier d'Ouzbek Erika, Blaise Mao, c'est que les mycorhizes ne sont pas tant considérés que ça, finalement, dans les pratiques de conservation des espèces vivantes.
Absolument. Lui, il parle d'ingénieurs écosystémiques, mais effectivement, elles ne sont pas prises en compte, ou mal prises en compte, en fait, négligées dans les programmes de conservation et dans les efforts de restauration. alors qu'ils jouent ce rôle essentiel, notamment pour régénérer les forêts, pour assurer le cycle de l'eau et des nutriments, ce qu'on disait, ce qui peut aussi, sur certaines cultures, sur certaines plantes, contribuer à la sécurité alimentaire. Il nous a dit, nos efforts de conservation seront bien plus efficaces et bien plus complets lorsqu'on se préoccupera de protéger, de préserver et même peut-être de restaurer le microbiome du sol, considérant qu'à terme, cette étude de la biodiversité mycorhizienne pourrait être aussi fondamentale, aussi importante que l'imagerie satellite telle qu'elle est aujourd'hui utilisée, pour, notamment dans le travail de restauration d'un écosystème dégradé. Donc la publication de l'Atlas, c'était la première étape. La prochaine étape, c'est d'essayer peut-être de concevoir des corridors, ce qu'ils appellent des corridors fongiques souterrains, pour augmenter donc la résilience d'écosystèmes particulièrement vulnérables. Il prend l'exemple du Ghana, la côte ghanéenne, qui est un haut lieu mondial de la biodiversité mycorhizienne, et qui est en fait le littoral de ce pays s'érode de 2 mètres par an. Et là-bas, les scientifiques craignent que sans intervention rapide, en fait, on ait une biodiversité essentielle qui soit emportée par la mer, donc sous les cultures qui sont à proximité du littoral.
On imagine, vu la complexité de ces interactions symbiotiques entre mycorhizes, plantes terrestres, la difficulté que représenterait justement le fait de créer ce genre de corridor. Comment on va créer des sanctuaires de mycorhiziens? On a une ébauche de réponse à cette question?
Alors, c'est trop tôt, et notamment parce qu'on a fait une découverte, enfin, ils ont fait une découverte intéressante avec cet atlas. Ils ont fait une cartographie des points chauds mycorhiziens à l'échelle mondiale.
Et le en fait, hotspot.
Les hotspots mycorhiziens. Et en fait, ces hotspots ne coïncident qu'avec 10% des zones naturelles protégées à l'échelle mondiale. Donc si on prend le chiffre dans l'autre sens, ça veut dire qu'il y a 90% des écosystèmes fongiques mycorhiziens souterrains qui sont les plus diversifiés, les plus riches, les plus denses de la planète, qui sont aujourd'hui sans protection. Or, ces écosystèmes sont aussi très vulnérables. C'est pas parce qu'ils sont souterrains, qu'ils ne sont pas sensibles aux variations climatiques, qu'ils ne sont pas sensibles à la question, par exemple, du labour ou de la transformation, de la conversion d'une forêt en culture. Donc, ça pose plein de questions. Et donc, ces champignons, en fait, restent vraiment menacés. Et pour l'instant, les plus riches sont sur des zones vraiment non protégées. Et aussi des zones qui ne correspondent pas forcément à une très grande diversité en surface. Ça, c'est vraiment intéressant.
Et ça, c'est très intéressant aussi de comparer à cette biodiversité de la surface, à ces politiques de conservation d'espèces qui sont souvent des espèces assez emblématiques. Ça, c'est une question qui revient assez régulièrement dans la science CQFD, c'est le fait que finalement, on se concentre sur des espèces un peu emblèmes, des étendards, des lions, des espèces spectaculaires, des espèces mignonnes, mais que la sève, elle se trouve aussi sous la terre avec ses mycorhizes et qu'il faut les inclure au même titre que le lion ou l'éléphant à ses programmes de sauvegarde.
Les mycorhizes, c'est pas très sexy comme Jinsu élance et il prend l'exemple par exemple de la forêt boréale sibérienne et au Canada aussi où vous avez assez peu d'espèces finalement, enfin énormément de conifères, énormément d'arbres, mais à une échelle de biodiversité, c'est le nombre d'espèces est pas fou. Par contre, en sous-sol, ce qui se passe dans ces régions-là, au niveau des réseaux mycorhiziens, là, c'est colossal. On peut trouver jusqu'à 100 espèces de champignons mycorhiziens différents dans une zone équivalente à la moitié d'un court de tennis. Dans ces régions-là.
Sébastien
Bollard. Alors, oui, est-ce que le drame de l'effondrement de la biodiversité concerne justement ces espèces?
Oui, oui, il les concerne parce qu'elles sont, ce qui est abîmé en surface
va directement impacter finalement les mycorhizes.
Impacte directement ce qui se passe en dessous.
On a pu mesurer la baisse de la biodiversité des champignons aussi.
Oui, oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Et en fait, il y a une capacité, les plantes hôtes de ces champignons, elles peuvent obtenir jusqu'à 80% de leur phosphore via les champignons mycorhiziens. Donc, ils viennent vraiment puiser. Donc, dans les zones, c'est dans les deux sens, en fait. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que ça contribuait vraiment à façonner des sols plus productifs avec la rétention d'eau et de nutriments. Et ça prévient l'érosion en diminuant la quantité de nutriments qui sont lessivés du sol de plus de moitié. Donc, quand ça va mal en surface, ça va mal aussi juste en dessous.
Et quand on voit par exemple la multiplication des méga-feux depuis quelques années, on imagine bien que ces forêts qui partent en fumée à des échelles énormes, finalement, vont provoquer la disparition de ces mycorhizes également.
Exactement. Les grosses menaces, c'est incendie, inondation, la conversion des zones protégées ou des forêts en terres cultivables, surtout sur de la monoculture. Mmh. Et aussi, bien sûr, les variations climatiques, les zones où le réchauffement va être particulièrement sensible.
Eh bien, écoutez, on consacrera peut-être une émission entière à ces mycorhizes. On a déjà consacré pas mal d'émissions aux champignons. On va les partager, bien sûr, sur notre page et puis sur le compte Blue Sky. Restez avec nous. Merci beaucoup, Blaise Mao, d'être venu nous parler de mycorhizes. Donc, cette interview de Jinsu Ellens est à retrouver dans Ouzbek Erika. Restez avec nous. On va poursuivre cette table ronde dans un instant avec une enquête toujours dans les sous-bois à la rencontre de la gelée stellaire. Et après avoir parlé surdiagnostic, on va se demander si nous ne sommes pas face à un sous-diagnostic des troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les fameux TDAH. Ce sera juste après ça. Substance par The Dodos dans la science CQFD sur France Culture. On réalise aujourd'hui notre tour d'horizon mensuel de l'actualité scientifique à la une des magazines de science en compagnie de Mathilde Fontaise, rédactrice en chef du magazine Epsilon, de Blaise Mao, rédacteur en chef d'Ouzbek Erika, de Sébastien Boller, rédacteur en chef du magazine Cerveau et Psycho, et de Cécile Breton, rédactrice en chef de la revue Espèce. Cécile Breton, dans la revue Espèce, vous vous êtes transformée en Sherlock Holmes des sous-bois pour élucider un mystère, celui de la présence d'une étrange substance. Alors, racontez-nous comment cette enquête a débuté.
Oui, l'histoire est assez amusante parce que c'était un collaborateur, enfin plutôt un ami d'ailleurs, avec qui on collabore souvent, qui est un passionné des mares qui sont dans les forêts et qui photographie le petit peuple des mares qui sont essentiellement d'ailleurs souvent des larves d'insectes. Hein, donc son passe-temps préféré, c'est de trouver des larves qu'on ne connaît pas, d'insectes qu'on connaît eux. Et donc un jour, il m'envoie une photo d'une espèce de substance un peu blanche, gélatineuse, qu'il a trouvée près d'une mare. Et il me demande, évidemment pas à moi, mais au comité scientifique, enfin tout au réseau de chercheurs qui travaillent avec Espèce, de nous aider, de l'aider à l'identifier. Alors on active un peu le réseau, puis on cherche un peu évidemment rapidement sur Internet. Alors lui, c'est lui effectivement qui a fait cette enquête tout au début. Moi, j'ai cherché un peu dans la littérature aussi ce qu'on pouvait trouver. On s'aperçoit qu'en fait, ces substances sont connues. C'est pas qu'elles sont pas expliquées, mais en tout cas, elles ont tellement d'explications que c'est difficile de faire le tri. On se rend compte qu'elles ont un nom vernaculaire. Souvent assez marrant, la gelée d'étoiles, la gelée astrale.
Il y a tout un tas de noms assez colorés.
Et le crachat de lune aussi.
Le caca de lune aussi, non, je crois, au Mexique, c'est ça?
Tout à fait. Mais en fait, ça, c'est des noms vernaculaires, des expressions qui vont aussi s'appliquer à d'autres organismes. Donc c'est très flou au début. Alors évidemment, il y a sur les forums, sur les réseaux, des prospectives les plus délirantes possibles. Ça va de matériaux qui sont lâchés par les avions, de matières toxiques liées à l'agriculture, etc. Donc on a eu un peu de mal à faire le tri là-dedans. Mais a priori, en posant la question autour de nous, il y a deux grandes pistes qui sont ressorties. C'est dans la partie, soit c'est des champignons, donc dont on vient de parler, soit c'est lié aux amphibiens. Mais là, on a effectivement cette hypothèse, mais qui est un peu floue parce que Jean-François Carr, donc, a fait la photo et qui a trouvé l'objet en question, a regardé sous le binoculaire et il voit pas du tout c'est supposé être une ponte de grenouille et il ne voit pas les ovocytes, quoi, les œufs. Donc c'est très étrange. Du côté champignon, il y a évidemment tout un tas, une variété, comme on a parlé il y a quelques minutes, de champignons qui sont extraordinaires et qui ont cet aspect un peu blanc, translucide. Donc il y a essentiellement plusieurs genres en fait qui réunissent un peu cet aspect. Mais là, encore une fois, à l'œil binoculaire, on voit pas les spores. Hein. Donc normalement, il y a des structures, en tout cas la structure de reproduction du champignon est pas visible. Et puis il y a pas le mycélium, donc aussi, c'est-à-dire qu'ils sont pas liés. Ces espèces de masses gélatineuses sont pas reliées à la terre. Donc c'est très peu probablement un champignon.
Alors il a fallu quand même poursuivre cette enquête, et comme vous le dites, il y a plein de portes qui s'ouvrent, mais aussi beaucoup de portes qui se ferment quand on cherche à expliquer l'origine de cette astromyxine, cette gelée stellaire. La réponse, elle avait été esquissée dès le 19e siècle par un spécialiste anglais des batraciens. Alors décrivez-nous un peu cette esquisse de réponse, vers quelle réponse nous emmenait ce William Fothergill.
En fait, oui, effectivement, c'est comme souvent, c'est-à-dire qu'il y a eu des pistes qui ont été ouvertes, et là, c'est la question des amphibiens. Il y a plusieurs chercheurs donc qui ont un peu insisté dans cette voie, mais en fait, le problème, c'est qu'on trouvait pas l'explication de l'absence des œufs. Et le fameux William Fothergill, il appelle la substance étoilée, il l'appelle une substance étoilée. Et il lui donne un nom scientifique, il l'appelle Tramella nostoc. Or, le nostoc, ça fait partie des choses aussi d'une des pistes, hein, parce que les nostocs, c'est des cyanobactéries qui se réhydratent avec la pluie et qui ont cet aspect un peu gélatineux qu'on trouve dans les forêts. Donc là, c'est encore un peu brouillé, c'est-à-dire qu'il a fallu en fait rechercher un peu plus loin dans la bibliographie. C'est surtout un Italien, en fait, à la fin du 19e, qui nous a vraiment donné la solution. Il parle du contenu de l'oviducte, c'est-à-dire l'oviducte, c'est comme les trompes de Fallope chez nous, c'est-à-dire c'est le canal qui va de l'ovaire à la sortie. Il dit que quand les oviducts de grenouille, quand on les met dans l'eau, elles ont tendance à gonfler et elles prennent cet aspect un peu finement grenu. Il parle, c'est son expression. Donc, il ne manquait plus qu'à Jean-François Carr d'aller trouver un cadavre de grenouille.
Ce qu'il a, par miracle, réussi à faire. Hein. Pauvre petite grenouille trouvée en forêt qui lui a...
Parce qu'elles sont beaucoup écrasées sur la route et je vous assure qu'il n'y a aucune violence contre les animaux qui a été faite dans cette enquête.
Surtout pas dans la revue Espèces, ça ferait mauvais genre.
C'est dommage, oui. Donc il trouve effectivement, il finit par trouver une. Alors c'est pas la même espèce hein, parce que la reproduction était terminée, mais enfin c'est plus ou moins équivalent. Et il a il a réhydraté il a prélevé cette partie l'oviducte et il l'a réhydraté. Ça a donné effectivement cet aspect très gélatineux. Ça a gonflé. Alors c'est sous l'effet d'une protéine qu'on appelle la mucine et en fait qui est destinée à envelopper les œufs pour les protéger parce que vous savez que les grenouilles pondent dans l'eau, le mâle se place sur la femelle
pour la féconder.
pour la féconder, voilà, c'est ça. Et donc il faut que cette substance, non seulement elle protège l'œuf de l'eau, mais qu'elle permette le passage des spermatozoïdes et qu'elle permette le passage de l'oxygène. Et sa troisième fonction, c'est en plus d'agglomérer les œufs entre eux, parce que vous savez qu'ils se fixent sur le fond. Et ils s'agglomèrent entre eux, ils se développent donc à l'extérieur de la femelle. Donc cette matière, en fait, elle est assez extraordinaire, hein, parce que voilà, elle a plusieurs fonctions et surtout, parce que la question est, c'est pourquoi on l'a trouvée sans cadavre de grenouille à côté, c'est que c'est probablement les restes d'une prédation, c'est-à-dire que cette mucine, elle gonfle dans l'estomac. Et donc, puisqu'elle est dans un milieu aqueux à l'intérieur du prédateur en question, qui peut être un renard ou un héron, les prédateurs habituels des grenouilles, et elle provoque une gêne. Et en plus, elle n'est pas du tout soluble par les sucs gastriques ou pancréatiques de l'intestin. Donc, elle est rejetée, elle est régurgitée, et elle se retrouve un peu comme ça. Voilà, mais sans les fameux œufs, puisque les œufs, en fait, il faut que ce soit une grenouille qui n'ait pas encore les œufs qui sont descendus par l'ovule. Il faut qu'ils soient encore dans les ovaires pour qu'on puisse avoir cette matière pure, entre guillemets.
Bravo pour cette résolution d'un mystère qui datait quand même de plusieurs siècles, Cécile Breton. C'est étonnant de se dire qu'on aurait pu identifier l'origine de cette substance, de cette astromyxine, de cette gelée stellaire, il y a deux siècles déjà, mais que des croyances ont perduré.
Oui, en fait, c'est-à-dire qu'il y a un lien avec, dans astromixine, il y a astro, et cette idée que cette chose arrive de nulle part, parce qu'en fait, comme elle est déshydratée, qu'elle se réhydrate un peu comme le Nostoc, on a l'impression qu'elle tombe du ciel. Et en plus, alors, pour la petite histoire, après la publication de cet article, j'ai Roland Lehoucq qui m'a contacté, parce que par plus grand des hasards, il travaille...
Roland Lehoucq, astrophysicien, on le rappelle.
Qui travaille sur cette question, parce qu'en fait, cette matière, elle a été rapportée, il y a énormément de témoignages au 19e siècle, elle est liée, elle a été liée à la pluie, aux pluies de météorites, et donc il y a beaucoup de choses qui sont, la permanence de cette histoire, il y a même un scientifique russe qui a voulu absolument... prouver que, même très récemment, dans les années 2005, qui a voulu prouver que c'était une espèce de cyanobactérie qui était emmenée par le vent et puis qui était réhydratée dans le ciel et qui s'était agglomérée, qui était redescendue. Donc, le fait que ça tombe du ciel, c'est une idée, voilà, c'est une idée forte qui est restée longtemps. Alors, je dis pas qu'on n'a pas trouvé la solution parce qu'il y a, probablement d'autres phénomènes qui produisent peut-être une matière équivalente, parce que les descriptions sont très, très vagues, hein, donc on peut difficilement savoir si l'astromyxine que nous avons déterminée, c'est toutes les astromyxines qui ont été découvertes.
En tout cas, une partie du mystère est résolue, et en partie donc grâce à la revue Espèces. Merci beaucoup, Cécile Breton. On va poursuivre dans un instant et clore ce tour de table des actualités scientifiques. On va aller du côté de la santé mentale.
France Culture, la science CQFD, Antoine Beauchamp.
Et pour clore notre tour d'horizon, je me tourne vers vous, Sébastien Boller du magazine Cerveau et Psycho. Sébastien, vous vous attardez aujourd'hui sur un trouble qui fait parler de lui, le TDAH, pour trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité.
Ben oui, vous savez que vendredi dernier, c'était la journée mondiale de la santé mentale. Ce qui a permis au grand public de se rappeler quand même quelques chiffres. Une personne sur quatre au cours de sa vie sera confrontée à un problème de santé mentale. 10 millions de personnes souffrent d'anxiété, 7 millions de dépression, 5 millions de phobies, de TOC. Et puis 2 ou 3 millions de personnes aujourd'hui, selon les estimations, qui souffriraient de TDAH. Donc trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors effectivement, il y a une actualité qui est celle d'un terrain un petit peu en expansion, beaucoup d'activités sur les réseaux sociaux, beaucoup de questionnements de plein de gens qui voient des vidéos ou des posts sur les réseaux qui disent « Tiens, est-ce que j'ai pas un TDAH ?» Et se pose donc la question finalement, qui est touché par ce trouble, qui est traditionnellement un trouble qui décrit plutôt des problèmes chez les enfants. Puisque le TDAH chez l'enfant, on sait que c'est des symptômes donc qui vont concerner à la fois des troubles de l'attention, et puis de l'hyperactivité. Alors comment est-ce qu'on fait la différence? Les troubles attentionnels, c'est l'enfant qui n'arrive pas à se concentrer sur des tâches longues, à suivre le professeur à l'école, qui bavarde beaucoup, qui saute du coq à l'âne, qui oublie beaucoup ses affaires, et puis de temps en temps, qui a un volet également d'hyperactivité, mais pas nécessairement. C'est pour ça qu'on dit avec ou sans hyperactivité. Et là, c'est l'enfant très agité, qui tient pas en place, qui remue sans arrêt, qui court dans tous les sens, qui monte sur la table, qui peut pas s'empêcher de parler, qui interrompt tout le monde. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui avait été repéré depuis longtemps dans les critères diagnostiques chez l'enfant. Mais voilà.
N'est pas finalement qu'un problème d'enfant.
Ce n'est pas qu'un problème d'enfant. Et alors voilà, on commence à parler de plus en plus du trouble de l'attention ou d'hyperactivité chez l'adulte. Et on s'aperçoit effectivement, alors c'est ce qui remonte du système de santé, des expériences de terrain, des psychiatres, des psychothérapeutes, c'est qu'à peu près 60% des enfants qui ont un TDAH, le garde ensuite à l'âge adulte. Et il y a 10-20 ans environ, on apprenait encore en fac de médecine ou dans le cursus psychiatrique ou dans les manuels de psychiatrie que le TDAH s'arrêtait à l'adolescence, en gros, puis qu'après on n'en parlait plus. Eh ben non, on se rend compte que dans 60% des cas, ça continue. Alors, il y a des cas où, effectivement, dans l'enfance, on a repéré, on a plus ou moins suivi, traité, et puis ça continue. Et puis, il y a des situations de patients qui, à 30-40 ans, se découvrent un TDAH. Et on pourra poser la question, est-ce que c'est vraiment un TDAH? Et qui ensuite se disent, oui, mais comment ça se fait qu'on l'ait jamais vu? Et là,
on ne se rend pas compte, est-ce que ce sont des TDAH dormants, finalement, un peu dans l'esprit?
Alors, oui, mais c'est pas des TDAH dormants. En fait, le TDAH qu'on remarque à l'âge adulte, il était déjà présent dans l'enfance. Et à chaque fois qu'une personne adulte fait la démarche, on va discuter avec son psy, va se dire, essayer de voir d'où ça vient, se tourne vers son entourage, il parle avec ses parents, il parle avec ses frères et sœurs. Et systématiquement, la réponse, c'est oui, il y avait quelque chose, on le sentait bien. On avait vu un psy, t'avais fait passer quelques tests, t'as peut-être oublié, mais il y avait quelque chose, mais... D'une part, ça s'est un petit peu tassé. Et puis d'autre part, ce que disent les psys, c'est que souvent, aujourd'hui, les enfants qui ont un TDAH, souvent les parents sont là pour compenser. Mmh. Donc, ils disent, t'as oublié ton cartable, viens, je vais t'aider, on va faire ça à telle heure ensemble. Et puis, il arrive à l'école, il y a pas mal de souplesse aussi du système scolaire vis-à-vis de ces troubles-là. Ce qui est très bien, ce qui permet à l'enfant de développer sa personnalité, mais qui font que ça va amortir le choc pendant un moment. Et puis après, à l'adolescence, souvent on perd un petit peu le fil, et à l'âge adulte, la personne va assimiler ça plutôt à soit de la dépression, soit de l'anxiété, soit une vulnérabilité aux conduites addictives, aux conduites à risque, parce que ça se rencontre pas mal dans les TDAH aussi, et va tenir comme ça, va essayer de camoufler ce qui se voit beaucoup chez les filles, parce qu'elles intègrent beaucoup plus les normes de la pression sociale environnementale et essayent de lutter contre.
Ils développent des stratégies finalement pour gommer les effets, les symptômes.
Oui. Et puis au bout d'un certain temps, parce que l'estime de soi s'effondre, parce qu'il y a des dépressions, parce qu'il y a des conduites addictives, parce qu'il y a de la mortalité, les personnes qui ont un TDAH diagnostiqué vivent en moyenne 7 ans de moins que la moyenne de la population.
C'est lié à quoi?
C'est lié aux problèmes de, justement, d'attention qui font qu'on va se blesser plus souvent, des accidents ménagers, des accidents de la route, et des accidents liés à la prise de drogue, la conduite de prise de risque, beaucoup plus importante. Et ça vient du fait que un des grands trucs du TDAH, c'est la difficulté à contrôler l'impulsivité. Donc on a des systèmes dans notre cerveau qui font rechercher des sensations. Par exemple, on va monter sur un muret avec des amis, on va essayer d'escalader une colonne, ou alors on va tenter des drogues, ou alors on va faire des excès de vitesse en voiture. Ça, c'est quelque chose qui nous vient de notre système de récompense, qui libère de la dopamine quand on se fait un petit peu des sensations comme ça. Et puis, il y a d'autres parties de notre cerveau, comme le cortex préfrontal, à l'avant du front, qui vont se dire, attention, là, c'est peut-être pas une bonne idée de traverser maintenant, il y a une voiture qui arrive, ou fais attention quand même, ça, c'est une conduite à risque. Et qui, quand ça marche bien, ça nous permet de réfréner tout ça. Mais voilà, chez les TDAH, il y aurait un défaut de cette inhibition-là.
Blaise Mao.
Oui, on parle beaucoup en ce moment des effets des écrans sur la concentration, sur la capacité d'attention. Est-ce que il y a un rapport, un lien direct entre l'exposition aux écrans, surexposition aux écrans, et soit le déclenchement, soit peut-être l'aggravation d'un TDAH?
Ça, c'est la question.
Est-ce que c'est une maladie de notre époque, finalement, de notre temps? Est-ce que, comme le diabète, par exemple, a explosé à partir du moment où on s'est mis à manger beaucoup plus de sucre modifié, est-ce que le TDAH est une maladie épocale, pour faire snob?
Alors, je dirais plutôt non. parce que la part de génétique dans l'héritabilité du TDAH, dans la détermination en fait du TDAH, est de 80%. C'est extrêmement génétique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'environnement, mais le discours dominant actuellement consiste à dire on n'attrape pas entre guillemets un TDAH en se mettant devant des écrans. Par contre, on peut l'aggraver. Ce qui se passe, ce qui est très frappant, c'est que les personnes qui ont un TDAH sont beaucoup plus accros aux écrans, vont beaucoup plus vers les écrans que les autres. Elles vont être fascinées par l'image, elles vont y passer beaucoup plus de temps. Donc ça, c'est lié à plein de choses, notamment le fait que ça procure des sensations. Donc ça va activer ce système dopaminergique. Et ensuite, le fait de passer beaucoup de temps devant les écrans, ça par contre, oui, ça peut aggraver le trouble en ne créant pas finalement l'environnement propice pour stabiliser l'attention. Mmh. Et là, on entre sur la dimension maladie de notre époque qui... Alors, est-ce que c'est une maladie ou pas? En tout cas, il y a cette fragilisation de l'attention chez tout un chacun, hors trouble, qui est liée à ce qu'on appelle les captures attentionnelles, le fait qu'on est exposé à des stimulations fortes qui se renouvellent très rapidement et qui font qu'on est moins amené à faire fonctionner notre attention endogène, celle qu'on va maintenir soit devant un cours au lycée qui dure pendant une heure où il n'y a pas des petits flashs dans tous les sens, donc faut se focaliser par la force de la volonté, soit quand on fait une tâche au long cours au travail.
On parlait tout à l'heure, Sébastien Boller, de surdiagnostic. Est-ce que dans le cas du TDAH, on assiste à une forme de sous-diagnostic? Vous le parlez surtout, vous l'évoquiez tout à l'heure, le fait que finalement on retrouve ce trouble-là à l'âge adulte et que de plus en plus d'adultes finalement se font diagnostiquer comme souffrant de ce trouble-là.
Oui, oui, alors d'une part, il y a un sous-diagnostic, puis ensuite, il y a quelque chose de très important, c'est que j'ai compris que le surdiagnostic n'est pas l'inverse du sous-diagnostic, en fait.
C'est ça.
C'est-à-dire que, oui, la plupart, enfin, c'est ce qu'on constate en cabinet de psychothérapeutes, c'est que nous, on allait vers les psychothérapeutes, on leur dit, il y a plein de gens qui arrivent, qui ont vu des trucs sur TikTok ou ailleurs, qui se disent, ah tiens, ça me fait penser, j'ai peut-être un TDAH. Et donc, on leur disait, oui, mais enfin voilà, c'est fantasmé. Et on était très surpris d'entendre le discours consistant à dire que, en fait, à partir du moment où on se pose des questions, quand le patient va ensuite, pour faire un test bien bordé, bien rigoureux de TDAH avec un professionnel, presque dans tous les cas, c'est avéré. Mmh. Donc c'est intéressant, ça veut dire que c'est pas un faux positif. Effectivement, on tombe sur un vrai diagnostic. La question après qu'on peut se poser, c'est effectivement, est-ce que dans certains cas, il faut traiter? Est-ce que la personne qui n'aurait pas de traitement, que ce soit la Ritaline ou avec des thérapies cognitives ou comportementales, est-ce que cette personne-là, finalement, aurait de véritables problèmes dans sa vie? Et c'est là que la question est ouverte. Elle n'a pas encore été examinée. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que le surdiagnostic, ce n'est pas l'inverse du sous-diagnostic. Et il y a énormément de personnes qui ont un TDAH dans l'état actuel du diagnostic, voilà, et qui ne l'ont pas su jusqu'à 30 ou 40 ans, et qui ont vécu des problèmes d'organisation, plein d'oubli, de mails, l'incapacité d'aller à des rendez-vous et le fait de souffrir de ça socialement et qui à un moment n'ont pas su parce que depuis longtemps on leur a pas vraiment fait passer un test.
Mathilde Fontaise.
Oui, est-ce que justement on commence à voir des différences entre les pays aussi dans le diagnostic de ces maladies et dans un peu l'émergence de ce nouveau mal?
Alors on n'a pas fait l'analyse comparative. Il semblerait néanmoins que la France soit très sous-diagnostiquée. C'est-à-dire que l'état des structures de santé, de dépistage sur les maladies psychiatriques en général, on sait dans quel état est le système psychiatrique, ne permet pas d'aller vers un diagnostic qui reflèterait la situation réelle.
Merci beaucoup Sébastien Boller. C'est donc retrouvé à la une de Cerveau et Psycho. Je vous remercie tous les quatre. Mathilde Fontaise, Blaise Mao, Cécile Breton est venue nous aider à comprendre un petit peu les actualités chaudes dans le domaine des sciences. À présent, il est l'heure, comme chaque jour, de retrouver Alexandra Delbo, pardon, qui s'en vient avec sa chronique Avec Science. On va entendre une comptine polonaise, je crois, aujourd'hui.
Le grand méchant loup a-t-il peur de nous? Parce que nous sommes, humains, des super prédateurs. Un prédateur, c'est un animal qui tue une proie. On les classe souvent en fonction de leur taille et poids. Plus les prédateurs sont gros, plus ils se trouvent au sommet du réseau trophique, donc de la chaîne alimentaire. Il y a les micro-prédateurs, les poux, les punaises de lit, les moustiques. Ensuite, les mésoprédateurs, comme les renards ou les étoiles de mer. Car oui, pas besoin de griffes pour être redoutable dans son écosystème. Et tout en haut, il y a les super hyper prédateurs. On retrouve là les ours, les loups, les grands requins blancs, ceux qui sont dans l'imaginaire collectif les plus dangereux. Eux ne sont théoriquement la proie d'aucune autre espèce, sauf, vous l'avez compris, la nôtre. Bien que nous ne sommes pas plus imposants, nous tuons les animaux à un rythme bien plus élevé que tous ces autres carnassiers. On connaît déjà l'effet direct des prédateurs. Un prédateur, ça chasse, donc ça régule les populations de proies. Mais depuis une dizaine d'années, une nouvelle discipline s'intéresse à un autre aspect de cette relation, c'est l'écologie de la peur. Élise Cessala est chercheuse postdoctorante à l'Institut de recherche sur les mammifères à Białowieża, en Pologne.
Quand on parle de la prédation, il y a vraiment cet effet direct, on tue, et qu'est-ce qui se passe ? Mais en fait, la présence d'un prédateur, que ce soit l'humain ou un loup ou n'importe quel autre animal qui prédate, c'est une peur qui est générée chez les proies. Et nous, en l'occurrence, on va dire, tous les animaux sauvages sont nos proies. Donc, ils ont une peur qui est liée à ça. Et on s'est rendu compte, il y a à peu près 20 ans, qu'en fait, cette peur, juste cette peur de la présence d'un prédateur dans l'environnement, ça va avoir des modifications importantes chez les proies, comportementales, physiologiques. Et du coup, ça leur coûte. Ça leur coûte en termes de stress. Et donc, ça va avoir un impact sur leur survie et leur reproduction. Et ça a un impact à long terme sur les populations de proies. Et donc ça a commencé à être étudié énormément chez les invertébrés. Donc on a énormément de littérature là-dessus. Et on a commencé à se poser la question, donc moi c'était ça au moment de ma thèse, on s'est posé la question de est-ce que nos grands mammifères, comme le loup par exemple, comme le lion, comme la hyène, est-ce qu'eux, ils peuvent aussi avoir un impact sur les proies juste par leur présence, juste par cette peur en fait. Et maintenant, on se pose la question des humains.
Est-ce que les humains, simplement par leur présence et par la peur qu'ils génèrent, ont une influence sur le comportement des animaux, en l'occurrence des loups ? C'est ce qu'a voulu mettre en évidence cette nouvelle étude parue dans Current Biology. Mais étudier ces gros animaux en milieu naturel n'est pas chose aisée. Il y a beaucoup de paramètres à contrôler et donc il faut un dispositif expérimental qui soit le plus réaliste possible. Et pour cela, les scientifiques ont utilisé des pièges photos. Ce ne sont pas vraiment des pièges qui blessent et capturent ces loups. Ce sont simplement des caméras haut-parleurs sensibles au mouvement. Quand un loup passe devant l'un des 24 dispositifs répartis sur l'ensemble de la réserve naturelle de Tukola en Pologne, la caméra se déclenche, un son est diffusé 3 secondes plus tard et la réaction de l'animal est enregistrée en vidéo. La nature des sons change au fil de l'expérience. Cela peut être un oiseau de jour comme la corneille mantelée. Le son d'une chouette hulotte s'il fait nuit. Ce sont finalement nos sons contrôle, nos sons témoins. Il y a aussi le son d'un aboiement de chien. Et pour finir, des sons d'humains qui parlent. Et c'est finalement le cœur de l'expérience comme celui-ci. Alors, je ne sais pas si vous parlez polonais, mais il s'agit d'une comptine pour enfants. Et résultat, le loup a peur des humains. Quand il entend ces voix, il se carapate.
C'est qu'il avait vraiment bien plus peur des humains qu'il avait peur des chiens ou même des sons contrôle. En fait, il quittait deux fois plus vite le lieu, donc c'est-à-dire qu'il disparaissait du champ de la caméra deux fois plus vite quand il entendait des humains que quand il entendait un chien et quand il entendait un oiseau. Et puis, il se mettait aussi à courir deux fois plus quand il entendait ces sons. Par exemple, quand il entendait un chien, il pouvait s'arrêter et puis regarder la caméra et puis partir éventuellement. Mais quand c'était un humain, il se mettait toujours à courir deux fois plus, en tout cas, que quand il entendait un oiseau. Et c'était significatif, on l'a vérifié statistiquement. Donc ça veut dire que c'est pas juste un hasard. C'est pas le son l'a surpris et il s'en va en courant. C'est vraiment le son d'humain lui fait peur et il dégarpille tout de suite.
Nous effrayons donc les loups. Et second résultat de cette étude, les loups, comme les cerfs, biches ou encore sangliers, sont bien plus actifs la nuit. Leur nocturnalité serait donc une adaptation à cette peur des humains. Mais les proies ont-elles plus peur du loup ou de nous ? C'est une nouvelle question scientifique qui est en train d'être testée par cette chercheuse dans la forêt de Białowieża. Et je vous spoil un petit peu les résultats qui ne sont pas encore publiés et dont elle sera la première autrice. Il semblerait que, sans surprise, la peur de l'humain prime et c'est donc la double peine pour les proies qui préfèrent affronter leurs prédateurs naturels dans l'obscurité plutôt que de croiser notre route. Cela montre la puissance de l'écologie de la peur. Même sans armes, l'humain reste le prédateur le plus redouté de la nature.
Merci beaucoup Alexandra Delbo. On vous retrouve demain pour votre prochaine chronique avec Science. Un grand merci à toute l'équipe de la science CQFD, Joseph Schlegel, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Ève Etienne, Loïc Dutoit, Alexandre Morales, Natacha Triou, à la technique aujourd'hui Hélène Trigueros, Paul Guig, à la réalisation Hélène Trigueros. Merci également à Hugo Pietri pour le duplex aujourd'hui à Bastia. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans la science CQFD et en attendant, gardez le bon cap, il y a toujours une terre de science en vue.